marche du monde.
Suite de la marche du monde à Butare dans le sud du Rwanda, on vous retrouve, Assumpta Mugiraneza. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'ONG IRIBA pour la mémoire audiovisuelle du Rwanda. J'aimerais que vous nous disiez ici à Butare à quel moment les voisins sont entrés dans le génocide.
Butare est une singularité dans l'histoire du génocide au Rwanda parce que c'est une ville qui avait sa manière de résister. Et il se fait aussi que c'est dans cette ville qu'il y avait un préfet qui n'a pas voulu céder aux appels des tenants du pouvoir Hutu Power pour massacrer. C'est seulement après qu'il ait été massacré et que le président intérimaire soit passé pour appeler la population d'ici à travailler, ce mot signifiant bien sûr massacrer, dans un discours devenu célèbre par ailleurs. Et donc les premiers massacres seraient arrivés ici vers le 19 avril. Et d'ailleurs la majorité des gens qui n'étaient pas directement dans le viseur des massacreurs, ce sera vers fin avril.
Butare a été un lieu où plusieurs fois dans l'histoire, justement, ce discours raciste a pu s'exprimer. Pourquoi c'était important dans le passé, pourquoi ça a été important au moment du génocide de venir ici à Butare pour prononcer des discours à l'adresse des Rwandais, pour les inviter justement à participer à des massacres de populations?
Parce que justement, Butare est une ville qui compte aux yeux des Rwandais. Je pourrais dire que c'est la capitale intellectuelle. Et donc, comme naguère, Kayibanda, cherchant à se saisir d'une certaine légitimité comme représentant de la majorité Hutu, avait dû venir prononcer un certain type de discours ici à Butare. Le président intérimaire, Cindy Kubgao, qui n'aura finalement régné que pendant la période du génocide, il a fallu qu'il vienne à Butare, lui-même étant natif de Butare, pour convaincre les gens d'ici à passer à l'acte. Parce que quand on a convaincu Butare, on peut faire marcher Dikongoro, qui est un peu plus au sud, Gitarama, qui est le voisin d'un peu plus au nord, Gitarama, qui porte encore plus cette identité parmi Hutu, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Donc Butare, on dirait, c'est le moteur. Si on arrive à faire démarrer Butare, si Butare ne reste pas en arrière, visiblement, il y a des choses qui s'accomplissent.
20 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, je suis venue ici, dans la ville de Butare, située au sud du Rwanda, pour rencontrer une grande figure intellectuelle, l'historien Faustin Rutanbessa. Depuis 2010, il dirige l'université catholique de Butare, dont les bâtiments flambant neufs ont été financés par le diocèse. Faustin Rutanbessa revient pour la marche du monde sur l'histoire longue de son pays et s'interroge sur la construction de l'idéologie raciste avant et après l'indépendance du Rwanda. Une réflexion partagée par l'historien français Jean-Pierre Chrétien dans son dernier livre intitulé « Rwanda, racisme et génocide » aux éditions Belin. Si la fin des années 50 est marquée par la vague des indépendances en Afrique, au Rwanda, la décolonisation s'accompagne d'une révolution dite sociale. Dans un contexte où le colonisateur belge a organisé son administration en s'appuyant sur une élite choisie, Tutsi, comment faut-il imaginer cette révolution sociale?
Effectivement, en 1959, donc, on a parlé de révolution sociale. C'est le langage officiel au Rwanda, révolution sociale, renversement en quelque sorte d'un pouvoir, d'un milieu social au profit d'un autre. Cette révolution sociale, par la volonté des leaders rwandais eux-mêmes, parce que je pense qu'il faut cesser de voir les Africains comme toujours des pions manipulés de l'extérieur. Ils ont leur propre jeu politique. Ils veulent arriver au pouvoir et ils pensent que la carte d'un certain racisme consistant à opposer la majorité Hutu, autochtone et majoritaire, c'est le thème qui apparaît dès ce moment-là, à la minorité féodale et venue de l'extérieur, est un bon levier pour contrôler de façon décisive le pouvoir. Les idées sont mises en scène, si j'ose dire, dans la violence, qui sert de provocation, de conscientisation.
La révolution de 59 est menée par le mouvement de l'émancipation des Bahutu, le Parmehutu. Et c'est Kayibanda, le secrétaire de Monseigneur Perraudin, qui en prend la tête. Non seulement la révolution sociale s'accompagne de violences, mais des violences perpétrées avec l'appui de l'administration coloniale.
C'est tout à fait clair, pour moi c'est clair. Il y a des gens, des administrateurs belges, qui se sont directement impliqués dans les violences. Et qui ont même conduit des bandes d'incendiaires.
Donc on incendie des maisons, soi-disant appartenant aux Tutsis.
Voilà. Dans l'incendie des maisons, dans l'arrestation de certaines personnes, dans le massacre de telle ou telle autorité, etc. Il y a des individus belges qui étaient dans l'administration de l'époque et qui se sont engagés dans ce type de violence. Mais de manière générale, l'administration belge s'est engagé en faveur du parti Parmi Hutu. Et je n'ai pas trouvé de dénonciation systématique de l'ethnisme ou, comme on disait à l'époque, du racisme du Parmi Hutu. Alors que l'ethnisme était au cœur même du Parmi Hutu. C'est le parti du mouvement pour l'émancipation des Hutus. Un parti qui est basé sur l'exclusion des non-Hutus. Et ça, je n'ai jamais vu une condamnation de la part de l'administration belge.
Le soutien déterminant de l'administration coloniale et militaire au mouvement Parmi Hutu a été d'ailleurs reconnu par les principaux acteurs belges de l'époque. L'ancien gouverneur Arroy décrit une révolution assistée dans son livre paru en 1984, tandis que le colonel Logiste revendique son engagement personnel ainsi que le rôle de ses soldats dans l'éviction de l'aristocratie Tutsi et de la monarchie. Un investissement personnel sur lequel insiste Faustin Rutenbessa.
C'est Guy Logiste qui a pris la direction du Rwanda. C'est Guy Logiste qui a donné l'impulsion à ce mouvement qui a abouti justement à des violences. Et il les a soutenus. Vous lirez son livre, son autobiographie. Un blanc dans la bagarre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Nous sommes là pour aider les Bahoutous et leur donner le pouvoir. C'est clair. Et il l'a fait, il l'a réalisé. Il y a des documents que la plupart des gens ignorent. Ce sont les messages qui étaient lancés par l'avion qui venait de Sumbura, de Bujumbura à cette époque-là. Messages du résident, messages du gouverneur. Il y a des messages qui sont numérotés, j'en ai conservé quelques-uns. Dans ces messages, on ciblait l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui réclame l'indépendance. L'ennemi, c'est celui qui ne soutient pas la cause du pauvre. L'ennemi, c'est celui qui opprime le Hutu. Alors, si vous votez, et c'était clair, ne votez pas pour le parti UNA, qui est un parti nationaliste, communiste, un parti hostile aux Blancs, aux étrangers, etc., etc. Voilà, c'est dans ce contexte, c'est un jeu extrêmement brutal qui s'est mis en place. Et c'est dans ce jeu, justement, que les violences de 59 se sont produites.
D'un côté, le mouvement Parmi Hutu de Kayibanda, soutenu par le colonisateur. De l'autre, les leaders de l'UNAR, accusés par les Belges de se rapprocher des nationalistes congolais et donc de Patrice Lumumba. Bref, la tension monte et les violences explosent le 1er novembre 1959. C'est la Toussaint rwandaise, comme l'indique Jean-Pierre Chrétien.
En fait, la Toussaint rwandaise a éclaté de façon assez curieuse aussi. Il y a un leader rwandais Hutu qui a été agressé par un groupe de jeunes Tutsis. Il y a eu des échanges de coups, il n'y a pas eu de blessures, mais cette affaire est immédiatement montée en épingle et aussitôt sont déclenchées des attaques dans la partie nord-nord-ouest du pays contre des enclos Tutsis qui sont brûlés. On ne massacre pas systématiquement les Tutsis à l'époque. Hein. On les attaque, on essaie de les expulser de la région, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux, etc. Mais le Parmi Hutu, c'est ce parti du mouvement de l'émancipation des Hutus, dont le leader est Grégoire Kayibanda, ce Parmi Hutu est très organisé. Donc on voit très bien qu'il y a une stratégie visant à mobiliser cette idéologie dans un sens cette fois-ci positif au service d'une cause Hutu.
59, ce sont les premières violences d'une longue série. 59, 63, 73, dont l'apogée sera le génocide des Tutsis de 1994. Rose a vécu 59 et sa révolution incendiaire au sein de sa famille.
Je suis originaire de la région de l'Ouest, de Kibuye, précisément de Bisesero. Je suis née en 57. J'ai connu la période de ce que nous appelons les événements ou bien la guerre de 1959, mais j'étais gamine. Là, dans ma région natale, les éleveurs dont je fais partie sont connus de se défendre comme il se doit. Et dans les années 63, c'est à ce moment-là que les militaires congolais et belges sont venus avec des hélicoptères. Les gens étaient cachés dans des brousses. Il y a même des familles dont trois messieurs sont morts, ont été assassinés. Et mon frère, le deuxième, était caché avec un voisin qui a été tué. Et moi, j'étais partie chez ma grand-mère. Et donc, dans ma région natale, les gens ne se sont pas réfugiés. Tout au contraire, ils allaient se battre pour empêcher ceux qui venaient tuer du côté de chez moi. Nous sommes à 2800 mètres d'altitude, ce qui fait que les gens étaient un peu sous les hauteurs et voyaient ce qui se passait.
Faustin Rutenbessa rappelle combien l'idéologie raciste du mouvement parmi Hutu est clairement énoncée dans le manifeste des Bahutu de 1957.
Avant 1959, il y avait déjà eu le manifeste des Bahutu. Donc Grégoire Kayibanda était l'un des principaux rédacteurs. Et ce mot n'est pas nouveau, puisque déjà dans le manifeste des Bahutu de 1957, Tutsi égale étranger, égale envahisseur, égale féodal, etc., etc. Et donc 1959, c'est la concrétisation du concept déjà. Refonder le Rwanda en le remettant entre les mains de ses propres propriétaires. Autrement dit, l'histoire antérieure est une histoire d'usurpation. C'est des étrangers qui ont usurpé ce pays et c'est nous les nationaux. Autrement dit, Hutu devient synonyme cette fois-ci d'autochtone, de celui qui a des droits. Et le Tutsi devient étranger et par conséquent celui qui n'a pas de droits dans ce pays ou celui à qui on peut concéder les droits s'il accepte de collaborer.
L'épisode le plus significatif, c'est à la Noël 63. On assiste à un petit raid de réfugiés tutsis venus du Burundi qui attaquent dans le sud, je crois qu'il y a deux ou trois morts. Le mouvement est rapidement bloqué, mais dans les jours et les semaines qui suivent, on assiste à des massacres systématiques, non seulement l'exécution de toute une série de cadres tutsis qui étaient restés dans le pays, mais aussi à des massacres de familles entières, notamment dans la préfecture de Gikongoro, vers le centre-sud du pays, peut-être au moins 10 000 morts. À l'époque, on est 20 ans après 44, et bien aussi bien Radio Vatican que Bertrand Russell disent « mais c'est un génocide qui nous rappelle la Shoah ». Mais finalement, le Rwanda est un petit pays qui n'intéresse pas beaucoup de monde. Le régime prétend qu'il a été obligé de se défendre. Finalement, l'église, surtout locale, protège, si on peut dire, le régime. Et puis rapidement, les pays occidentaux mettent le couvercle sur cette affaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours en période de guerre froide et que le régime rwandais est un régime tout à fait fiable pour le camp occidental.
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Parole croisée d'historiens dans La Marche du Monde avec Faustin Rutenbessa et Jean-Pierre Chrétien. Nous revenons sur l'histoire longue du Rwanda. Après la période coloniale et la révolution sociale de 59, le Rwanda devient indépendant. Présidé par Grégoire Kayibanda, l'idéologue du mouvement raciste parmi Hutu, puis par Juvénal Habyarimana à partir de 73, le Rwanda évolue et à l'aube des années 90 aspire à plus de démocratie à l'instar du continent noir.
Depuis la fin des années 1980, il y a un mécontentement évident au sein de la société rwandaise. Cette société a évolué et d'ailleurs il y a des rencontres, des collaborations, des amitiés entre les Rwandais des différentes catégories Hutu et Tutsi. C'est-à-dire que ce qui était présenté habituellement dans les médias qui traitent de ce pays comme deux groupes antagonistes, comme deux ethnies absolument opposées, en fait, on voyait plutôt une collaboration qui se développait entre ces gens, notamment au centre et au sud du pays. Et le mécontentement social était fort par rapport à un régime dictatorial du président Habyarimana au pouvoir à la suite d'un coup d'État depuis juillet 73, et puis sous un régime de parti unique, le MRND. Donc, le mécontentement, encore une fois, il est autant chez les Tutsis que chez les Hutus qui dénoncent ce régime. Donc, on assiste à une pression intérieure qui va se conjuguer avec une pression extérieure, c'est-à-dire effectivement l'ouverture d'un front de guerre civile au nord du pays depuis octobre 1990, où des exilés Tutsis de deuxième génération, venus d'Ouganda, bientôt rejoints par d'autres exilés venus des pays voisins, qui ouvrent un front de guerre civile. Donc le régime rwandais se trouve confronté à deux oppositions. Une opposition intérieure essentiellement Hutu, une opposition armée essentiellement Tutsi.
Pression intérieure, pression extérieure, tout cela conjugué avec une large aspiration à la démocratisation, encouragée par l'Occident et les bailleurs de fonds.
Un certain vent d'optimisme souffle au Rwanda à ce moment-là. Mais en face de cela, c'est pourquoi je parle de course contre la montre, il y a des cercles extrémistes proches du pouvoir qui estiment que, au fond, le FPR représente l'ennemi traditionnel Tutsi, qu'il faut remobiliser tous les Hutus dans cette ligne d'un conflit racial, et que donc la solution, c'est plutôt celle consistant à se préparer à un conflit définitif et radical contre les Tutsis. Cela s'exprime de différentes façons. Il y a notamment un nouveau parti extrémiste qui est créé en mars 92, la Coalition pour la Défense de la République. Il y a l'état-major qui sort une note sur l'identification de l'ennemi. L'ennemi, ce sont essentiellement les Tutsis, les proches des Tutsis et ceux qui travaillent avec eux. Et puis, il y a ces journaux qui, profitant de la liberté de la presse, avec l'appui de cercles extrémistes proches du pouvoir, lancent une presse raciste, notamment le plus célèbre, Le Réveil, Kangoura, qui commence dès 1990 et qui s'illustre très vite en publiant les 10 commandements du Hutu, qui sont un véritable programme d'apartheid, décrétant que la société rwandaise est littéralement pourrie par le jeu des femmes et de l'argent utilisé par les Tutsis pour corrompre les Hutus. Et donc, qui conseille à la fois la séparation, la fin des fréquentations sentimentales et aussi la fin des affaires faites en commun, et qui affirme aussi qu'il faut cesser d'avoir pitié des Tutsis. Donc, cette propagande va se développer sur un mode très moderne. C'est pas une haine ethnique quelconque. Quand on dit qu'un cancrelat ne peut pas donner naissance à un papillon, ça veut dire ce que ça veut dire sur un côté biologique de l'opposition. Quand on dit la nation est artificielle, l'ethnie est naturelle, quand on dit, même si tu as des papiers de Hutu, comment trouveras-tu ton identité Hutu dans le sang qui coule dans tes veines? Donc une propagande manifestement raciste et très inquiétante donc.
Et cette propagande raciste se traduit à nouveau par des menaces, des violences, des morts. Une escalade vécue au quotidien par cette ancienne maîtresse d'école qui a souhaité rester anonyme.
J'ai envie de dire qu'en 1990, déjà, on tuait des gens là où j'enseignais. Oui, on tuait des gens. Il a eu un garçon pendant la journée, on l'a tué, on l'a lancé des pierres et il est mort. Alors on a dit, ah, on a tué le Tutsi, on a tué le Tutsi. Comme on savait que je suis Tutsi aussi, ma classe et les enfants disaient, ah, tu sais maîtresse, on a tué le Tutsi de terre. Et il nous a dit que toi aussi tu es Tutsi. Peut-être qu'on va te tuer toi aussi. Quand la guerre a commencé, j'ai remarqué une sorte de désordre. Alors, j'avais pas l'autorité que j'avais avant devant les enfants. Les enfants ont commencé à me désobéir.
Donc il y avait ce climat qui existait dans la classe, au sein des enfants. Quelles sont les premières violences auxquelles vous avez été personnellement confrontée? Et à quel moment?
C'était en 90, c'était avant vraiment le génocide. Parce que là où je travaillais, c'était pas dans ma région natale. Alors on a fait avec d'autres collègues, on travaillait ensemble. On a été chez les prêtres 3 jours. Tu ne pouvais pas aller de la commune à l'autre. Parce que tu devais montrer le laissez-passer dans le même pays. Et ça, on te menaçait, on te regardait. Parce qu'il y avait des barrières. Tu montrais tes papiers. Et on te demandait, où est-ce que tu vas, toi, Montagné? Nyenzi, où est-ce que tu vas? Nyenzi, c'est comme cafard. Ça veut dire que tu étais non désiré, que tu étais menacé en quelque sorte.
1990, 1993, 3 années d'escalade, des tensions entre voisins, en pleine guerre civile.
1993. J'ai continué à enseigner. Je montais un peu avant d'arriver à l'école. Alors j'ai vu tous les élèves avec les pierres. Alors on m'a lancé les pierres, je suis retournée en arrière en courant. Je ne savais pas comment on avait organisé ça. Alors que je vis les enfants me lancer les pierres, ça a été horrible pour moi. Je n'ai pas compris. Et je ne sais même pas comment on avait organisé ça. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Et je ne sais pas si j'ai voulu savoir. Et pourquoi savoir, voilà.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez été obligée d'arrêter?
Oui, j'ai été obligée d'arrêter d'enseigner. Parce que c'était pas possible, tu pouvais pas enseigner dans ces conditions. Non, j'ai préféré rester à la maison jusqu'en 94, quand le génocide a commencé.
Vingt ans après, Jean-Pierre Chrétien nous donne une définition précise du génocide des Tutsis au Rwanda.
Alors, il s'agit du génocide des Tutsis, cible de ces massacres. Ce qu'on nous oppose parfois à l'emploi du mot génocide, c'est qu'il y a eu aussi des Hutus victimes de ce génocide. Et il y a une tentation de les présenter un peu comme le produit d'un dégât collatéral. Moi, je pense qu'il faut les associer dans le même destin de victimes d'un génocide. Pourquoi? Parce que ces Hutus ont été tués comme au titre de complices, d'ibditsu, comme on disait en Kinyarwanda, de complices des Tutsis, parce qu'ils apparaissaient comme des obstacles à la réalisation du génocide. Et dans la Shoah, il y a eu aussi des non-juifs, d'ailleurs, qui ont péri. Et c'est pas pour ça que ce n'est pas le génocide des Juifs d'Europe. Là, c'est le génocide des Tutsis, ou des Hutus considérés comme complices, ou comme obstacles, qui ont été également massacrés.
Le génocide des Tutsis a été perpétré au Rwanda du mois d'avril au mois de juillet 1994. 1 million de personnes ont été exterminées. Avant de quitter Butare et Faustin Rutenbessa, j'ai demandé à ce grand historien de nous livrer son message pour les 20 ans du génocide.
Il n'y a pas d'autre message que celui-ci qui n'a jamais été mis en exécution. Plus jamais ça. C'est ça le message. Aux jeunes, aux journalistes, plus jamais ça, mais que ça rentre effectivement dans l'engagement de chacun. Ça, c'est fondamental. Et il n'y a pas d'autre message que celui que donne la jeunesse rwandaise aujourd'hui, qui veut passer par-dessus, oublier ce qui les a divisés, mais aussi prendre conscience des souffrances qui ont été infligées et subies, et se réconcilier.
Le message de Faustin Rutenbessa s'adresse aussi aux autorités françaises.
Alors, quant à la France, s'il m'était permis de souhaiter une chose, je souhaiterais que les Français, et il y en a de très bons, comme dans toute société, mais qu'ils adaptent leur fichier. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils consultent un fichier colonial et sont en train de rater le passage de l'Afrique vers une autre manière de vivre, une autre manière de se penser. Ce n'est pas simplement un message à adresser à la presse, mais aux hommes politiques français qui restent encore sur l'africanisme de papa. Voilà. Ceci ne nous conduit que vers des politiques qui trichent. Si on veut construire des sociétés nouvelles, des sociétés justes, des sociétés respectueuses des droits des hommes, des droits des femmes et des enfants, eh bien, il faut que l'on interroge. Il faut que l'on écoute les Africains, la parole des Africains. Qu'on en tienne compte. Voilà.
Penseur africain, Faustin Rutenbessa s'insurge contre la vision néocoloniale encore très présente dans le monde politique, intellectuel ou médiatique. Une vision également remise en question par l'historien Jean-Pierre Chrétien.
Il y a le problème de la façon de traiter l'Afrique. Ça consiste à dire en Afrique, il y a souvent des tueries. On évoque les massacres du Rwanda, c'est-à-dire que la spécificité de ce qui s'est passé idéologiquement, politiquement, humainement au Rwanda entre avril et juillet 94 est très vite brouillée, comme au moment même, comme si ça gênait de reconnaître qu'il s'est passé une catastrophe au Rwanda peut pas comparer, on va pas faire de la concurrence des victimes, mais c'est d'une dimension aussi grave que l'entreprise d'extermination des Juifs d'Europe dans les années 1940, que l'entreprise d'extermination des Arméniens en 1915. C'est vraiment un événement majeur de la fin du XXe siècle, le génocide du Rwanda, c'est-à-dire une entreprise d'extermination de toute une population basée sur un racisme idéologiquement construit depuis des décennies. Mais comment se fait-il qu'au niveau national, il n'y ait pas clairement une volonté de tourner la page dignement, hein, et de reconnaître ce qui s'est passé, de reconnaître qu'on n'a pas su voir, qu'on n'a pas su empêcher, que peut-être dans certains cas, on a même été un peu complice, peut-être. Il faut poser les questions. Moi, je ne suis pas des gens qui disent que c'est la France qui a commis le génocide au Rwanda. Si j'ose dire, les extrémistes rwandais étaient assez grands pour organiser un génocide. Bon, mais ils ont bénéficié de complicité, ils ont bénéficié d'appui. Donc, il faut savoir tourner la page clairement et dignement. Alors, j'espère que c'est ce à quoi on va assister dans notre pays d'ici avril prochain.
Merci à Jean-Pierre Chrétien et à Faustin Rutenbessa. Je vous rappelle le livre de Jean-Pierre Chrétien, Rwanda, racisme et génocide, aux éditions Belin. Et si vous êtes de passage à Paris, n'oubliez pas de visiter l'exposition consacrée au génocide des Tutsis du Rwanda, dont RFI est partenaire. C'est au Mémorial de la Shoah, à Paris. Rwanda, au nom du racisme, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani. N'oubliez pas de vous exprimer sur marche.monde@rfi.fr et sur la page Facebook de notre émission, podcastée, cette émission, c'est la vôtre.